Une star gravement blessée, une communauté silencieuse et une vérité bien difficile à établir. L'affaire Kenji Girac a suscité cette semaine beaucoup d'émotions et beaucoup de questions. Le chanteur aimé des Français a-t-il voulu se suicider ou simuler un suicide pour retenir sa femme? Une fragilité humaine mise au jour au prix d'un travail titanesque des enquêteurs. En quelques heures, ils ont réussi à retracer le scénario qui s'est joué dans le huis clos de cette caravane. Comment ont-ils travaillé? Quelles sont les zones d'ombre qui persistent? Tous les détails avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce huis clos encore bien mystérieux avec Elisa Tranin.
Quand les gendarmes arrivent peu après 6 heures lundi sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse, le camp est plongé dans le noir, silencieux. Pourtant, 20 minutes plus tôt, les pompiers ont évacué un homme blessé par balle, Kenji Girac. La blessure est sérieuse, le projectile a traversé l'abdomen du chanteur. Ce dernier explique qu'il s'est tiré cette balle lui-même, par accident, avec un pistolet acheté la veille sur une brocante. Une première version qui ne colle pas avec les éléments matériels. Que s'est-il passé cette nuit-là entre les caravanes? L'omerta règne et l'arme a été dissimulée dans un buisson.
Concrètement, elle était à quelques dizaines de mètres de la caravane. En revanche, il n'y avait pas de chargeur. Il va falloir attendre 12h40, l'arrivée du père et d'un oncle de Kenji Girac. L'oncle en question est allé le rechercher dans une caravane.
Non seulement ce pistolet n'a pas pu être acheté sur une brocante, mais son analyse révèle qu'un tir accidentel est impossible. L'intervention d'un tiers est écartée également. Au moment du drame, le chanteur était seul avec sa compagne et leur enfant dans la caravane familiale. Fortement alcoolisé et sous l'emprise de cocaïne, Kenji Girac a réveillé la petite fille. Une dispute a alors éclaté avec sa femme. Celle-ci a menacé de le quitter. Il a voulu lui faire peur en simulant son suicide, a-t-il rapporté au procureur.
Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas.
Un geste tragique qui aura mobilisé des dizaines d'enquêteurs pendant 3 jours.
Et avec nous, pour comprendre les dessous de cette enquête, le général François Daoust, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Raphaël Nedilko, bonjour. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes officier de police judiciaire au commissariat de Chalon-sur-Saône, auteur notamment du livre L'Obstiné, Confession du flic qui exhume les cold cases chez Studio Fact. On a besoin de vos lumières pour essayer de comprendre. On va vraiment s'intéresser avec Dominique à l'enquête qui a été menée. Enquête, Raphaël Nedilko, il faut d'abord le dire, et vous vous connaissez pour avoir mené des enquêtes dans des communautés gitanes. Difficile, parce qu'il s'installe une omerta immédiatement.
Oui, alors moi, la situation était un petit peu différente dans la mesure où il n'y avait pas cette pression médiatique, oui. Hein, puisque s'il s'était agi d'une autre personne que Kenji Girac, je pense que ça aurait fait l'objet de deux lignes dans les faits divers. Oui, j'ai eu à traiter deux affaires distinctes, une affaire de meurtre, stricto sensu, entre membres de la communauté des gens du voyage, des membres rivaux, et une tentative de meurtre donc avec des coups de feu tirés au travers d'une caravane au 44 Magnum, vous voyez, on reste dans les gros calibres. Et c'est vrai que la difficulté, ça a été justement d'imposer les actes de police. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont connus pour être assez réticents à l'arrivée des forces de police. Hein. De par leur définition, on est appelé par le terme de Schmitt, hein, donc on n'est pas du tout apprécié par cette communauté-là. Le petit avantage que j'avais, c'est que je connaissais la victime, qui était le frère d'un des membres de cette communauté que je connaissais depuis l'enfance. Donc j'ai pu, d'un point de vue humanité, faire connaître mes intentions, qui étaient celles justement d'établir la vérité, mais force a été de constater que pour effectuer ne fût-ce que les constatations de scènes de crime, les constatations balistiques avec un expert que j'ai fait venir en grande urgence, ça a été compliqué.
Là, ça a été le même cas, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir lancer les investigations. Oui. C'est du temps pour les enquêteurs en général où il peut se passer beaucoup de choses qui nuisent à l'apparition de la vérité.
Oui, beaucoup de choses, à la fois dans les témoignages qui n'existent pas, donc qui sont perdus, mais également dans les éléments indiciels. Quand on connaît, il faut savoir où on doit trouver l'arme, parce qu'elle a été jetée, où a été trouvé le chargeur, parce qu'il a été jeté et écarté. Donc on voit bien que tout a été manipulé, plus ou moins effacé, etc. Donc on voit bien que cette communauté repliée sur elle-même ne veut pas que les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, interfèrent, même quand c'est dans leur propre intérêt.
Est-ce qu'on connaît la provenance de cette arme ?
Alors, pour l'instant, là, l'enquête n'est pas terminée en la matière. Non, elle est pas connue. Mais les premières déclarations du chanteur ne semblent pas très étayées.
C'est pas une arme légale, détenue légalement?
Ah, non. Là-dessus. Et là, il y a un fichier national qui est avec le service central des armes, qui est, elle n'est pas répertoriée. Ce qui fait que c'est pas une arme détenue légalement.
Et elle n'est jamais apparue dans une affaire judiciaire, c'est ce qui est apparu aussi dans l'enquête. Il y a l'omerta, et puis il y a, vous le disiez d'ailleurs à juste titre, la pression médiatique, c'est-à-dire qu'on est sur une personnalité publique très aimée des Français, donc il y a une pression très forte. Ça aussi, ça change la donne quand on mène une enquête.
Oui, j'ai été confronté de nombreuses fois avec mes collègues des situations comme par exemple la tentative de meurtre sur Bertrand Delanoë lors des premières nuits blanches, l'affaire Ilan Halimi, hein, ce jeune de confession juive enlevé, torturé et assassiné par Youssouf Fofana et ses lieutenants. Oui, il y a une pression qui s'exerce. Alors, il est évident que la pression médiatique, elle est normale, c'est-à-dire que les citoyens ont besoin de savoir ce qu'il se passe, hein, savoir que leur sécurité est garantie, que tout est fait pour faire cesser ces atteintes inacceptables. Mais pour nous, enquêteurs, ça complique, puisque justement, par rapport à la charge qui est habituelle, cette charge émotionnelle habituelle, s'exerce une pression supplémentaire.
Je voudrais qu'on comprenne comment, avec l'omerta, avec la charge médiatique, les enquêteurs ont réussi à aller aussi vite, parce qu'au final, le procureur a fait cette conférence de presse ultra détaillée, à 1h30 jeudi, pour expliquer tout le travail qui avait été fait et permettre à la vérité d'émerger, vérité finalement d'un drame humain. Notamment dans cette caravane. Il y a un travail titanesque qui a été fait dans cette caravane générale.
Oui, là c'est le travail de criminalistique qui a été fait dès qu'ils ont pu rentrer. Ils ont déployé les moyens nécessaires. Les techniciens d'identification criminelle ont relevé toutes les traces qu'il pouvait y avoir. Et il y en avait un certain nombre. À la fois, on retrouve un impact de la balle dans le canapé, dans le sol, ce qui fait que ça donne un angle de tir.
Après, on fait ça comment ?
Pardon ?
On fait ça comment ? Comment on arrive à définir ça ?
Alors déjà, c'est assez reconnaissable. Et puis dans le canapé, il y a ce qu'on appelle une nébulisation, c'est-à-dire la transfixation de la balle qui traverse le corps du chanteur. Derrière, on a le sang qui est vaporisé. Ce sont des micro-gouttelettes, ça fait comme un nuage, ce qui fait que c'est immédiatement repérable. Et même si ça, il y avait eu une tentative de l'effacer avec du Blue Star, on aurait pu le retrouver. Donc à partir de ce moment-là, on sait que par rapport au point de sortie du corps, on a le canapé. Ça va au-delà du canapé, puisque ça va traverser le sol de la caravane. Et le canapé, le sol, donne un angle de tir qui va être complété par le scanner médical du chanteur qui donne la trajectoire de la balle à l'intérieur du corps. Et à partir de ce moment-là, on peut replacer le chanteur sur la scène de crime. On peut voir s'il y avait la place pour qu'il y ait quelqu'un d'autre devant lui ou pas. C'est ce qui a été fait. Et au fur et à mesure de toutes ces constatations balistiques, à la fois trajectographie, mais également sur l'arme, comment elle se déclenche, comment on peut tirer avec, sachant que c'est un Colt 45 qui a une pédale à l'arrière de la crosse, qui est une des sûretés qui existe sur cette arme, qu'il faut absolument exercer une pression forte sur la crosse pour pouvoir l'enfoncer, et ça permettra alors de mettre un doigt et d'appuyer la queue de détente, qu'on appelle communément la gâchette, mais qui est la queue de détente, et faire partir le coup. Donc tout ça, ça a été vérifié en laboratoire, qu'il n'y ait pas de possibilité de départ de coup accidentel, mais qu'il y ait bien la volonté de préhender cette arme et d'appuyer.
Pour compléter ce qui est déjà complet, il y a la balistique, le type d'arme, type de munition, voilà. Et il y a la balistique lésionnelle, c'est un autre métier que font des médecins légistes qui vont vous poser la question, donc parler de la trajectoire de la balle. C'est déterminant. Dans l'affaire de la mort du préfet Erignac, eh bien, il y avait toute une discussion sur le point d'entrée de la balle, le point de sortie, parce que la balle avait une trajectoire descendante. Or, Ivan Colonna était petit. Le préfet était très grand, ça se passait dans une rue qui montait, donc le préfet arpentait cette rue qui montait pour aller rejoindre sa femme au théâtre, et donc les avocats d'Ivan Colonna ont dit c'est impossible que ce soit Ivan Colonna qui ait tiré, parce que plus petit que le préfet, la trajectoire, elle devait être montante. Or, elle était descendante. Après, il y a eu une discussion sur le préfet qui se serait baissé, caché. Et vous savez comment on fait? Pardon, c'est, mais, eh bien, on fait passer des traits quand on a la personne. On fait passer des tringles, pour voir. On remet la personne dans la position. C'est ce qu'on a fait pour le préfet Erignac. Et on regarde les trajectoires qui ont été suivies par la balle du point d'entrée vers le point de sortie. On a une idée à peu près de ce qui a pu se passer.
Si je peux me permettre de réagir, l'enquête sur le site se fait de deux façons. Il y a deux phases. Il y a la phase criminalistique stricto sensu qui a parfaitement été relatée par le général. C'est-à-dire que là, on va rechercher les résidus de tir, on va faire justement l'étude balistique stricto sensu. Et après, on va la confronter dans un deuxième temps aux éléments testimoniaux. C'est ce qu'on appelle l'expertise différenciée pour voir si justement les éléments ramenés par les sujets correspondent avec les éléments constatés. C'est très important parce que c'est là qu'on permet de lever des incohérences et qu'on découvre justement les mensonges.
J'insiste, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est-à-dire que la science, et on sait ô combien elle est précieuse, et puis même dans un climat d'omerta, entendre les gens, recouper des informations, réussir à les faire parler.
C'est ça. Ce qui est très important, c'est de savoir, lorsqu'une personne vous parle, et là je parle de toute enquête confondue, dans tout ce qui est langage corporel et programmation neurolinguistique, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que la personne vous dit, c'est ce qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle cherche à cacher? Qu'est-ce qu'elle a le plus à perdre? Et c'est vrai qu'au cours de l'évolution de la médiatisation de l'affaire au cours de la semaine, on voyait que on pouvait trouver d'ores et déjà, d'emblée, la solution à ce problème dans ce qu'il cachait, dans ce qu'il y avait à cacher.
Ce qui est fascinant, c'est que tout ça s'est aussi joué dans un espace très petit et très clos.
Oui, mais qui a demandé des moyens importants pour justement balayer, comme disait monsieur avec juste raison, l'ensemble des hypothèses possibles et imaginables, et qui ont été confrontées. C'est ce qu'a fait le procureur quand il est allé suite à l'interrogatoire et à l'audition par les gendarmes du chanteur. Ses premières déclarations d'un accident, d'une manipulation, ne pouvaient pas correspondre à ce qu'il y avait comme constatation. À partir de ce moment-là, c'est dire, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'est là où il a parlé de simulation de suicide pour influencer sa compagne, etc., etc. Mais c'est la confrontation des constatations, des examens scientifiques ou expertises et de tout ce qui est l'environnement et les déclarations, parce que la déclaration de l'épouse a été aussi déterminante et corroborée par d'autres examens techniques qui ont été ceux du téléphone de l'épouse et à qui elle a appelé, à qui elle a envoyé les SMS, etc., etc.
J'ajoute aussi que l'arme en elle était symbolique. Il faut savoir, c'est qu'on acquiert ce type d'arme pour des raisons qui sont avérées. Comme le soulignait Dominique à juste titre, le Colt 45 Auto, c'est son vrai nom, de calibre 45 ACP pour Automatic Colt Pistol, est une arme emblématique qui est celle prisée des collectionneurs, mais aussi qui est l'arme du grand banditisme. Force est de constater qu'à la fin de l'année 2000, Francis le Belge a été abattu dans un café de 9 balles, c'est-à-dire la contenance étant de 7 cartouches, il a fallu que le tireur recharge et inflige les deux derniers tirs en pleine tête de sa victime. Donc, en plus, ce sont des membres d'une communauté qui ont une culture des armes. Donc, ab initio, la théorie selon laquelle on aurait eu un accident ne tenait pas. C'est quelqu'un qui était forcément connaisseur de ce type de fonctionnement d'armes.
Intéressant, parce que c'est un élément évidemment en plus passionnant de décrypter les dessous de cette enquête. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau
de
l'affaire suivante. Kenji Girac, on en reparlera à partir de 14h. C'est l'objet du long format BFM TV, la part d'ombre de Kenji Girac, ce drame humain qui s'est joué derrière tout ça pour reprendre la semaine avec les équipes de Ligne Rouge. Merci à vous deux d'avoir été avec nous.